in your region or a neighboring region is red. To curb the spread of COVID-19, gatherings with family and friends in private homes and yards are prohibited. Travel between regions should be avoided, and traveling to yellow zones is forbidden. It's forbidden to leave your home between 8 p.m. and 5 a.m. Visit quebec.ca/coronavirus to learn more about the other measures in place. Follow all the rules, all the time, no exceptions. A message from the Gouvernement du Québec.
CKUT is hiring a spoken word coordinator. Do you have a passion for storytelling and amplifying perspectives outside of the mainstream media landscape? Are you interested in working at a collectively run, independent community radio station? CKUT's Spoken Word Coordinator is a full-time position starting June 1st that is responsible for the coordination of all CKUT's spoken word programming and is part of CKUT's Collective Management Committee. The position is 35 hours a week, pays $18.36 an hour, and applications will be accepted until 9 a.m. on May 3rd, 2021. Please visit ckut.ca for more details. We're looking forward to hearing from you.
Radio.
Sound waves in the air.
CKUT.
Montreal, Canada.
CKUT.
Previously broadcast program.
Et à toutes, vous écoutez au lendemain de la veille pour le 1er octobre. Et oui, on est déjà en octobre. Et nous avons avec nous Raymond Vitesse avec sa chronique BD. Bon matin, Raymond.
Bonjour, Tamara. Ça va bien?
Oui, ça va. Et toi?
Oui, Paris, pour ce beau mois d'octobre, des couleurs resplendissantes, vraiment, puis un froid qui est stimulant, quel diable.
Oui, il est plaisant.
Puis, ben, aujourd'hui, les BD, le thème, si on peut dire en filigrane, c'est un thème relié à la mémoire. On va le voir, c'est des BD très différentes les unes des autres. Il y a aussi un essai sur l'étymologie, donc aussi la mémoire des mots, leurs origines. Alors voilà, on va commencer sans plus tarder avec le cirque, avec une BD qui s'intitule « Tête des peintres ». C'est publié chez un micro-éditeur européen qui s'appelle Presque Lune. C'est sous-titré comme livre une biographie de le fameux Tête d'épingle par un auteur qui s'appelle Bill Griffith. C'est un livre qui traîne dans sa besace depuis plus de 30 ans. Il avait vu un film alors qu'il était étudiant, le fameux Freak Show. C'est drôle, je ne sais pas si tu viens, j'ai parlé récemment de ce fameux Tête d'épingle, des fameux Freak Show avec une bande dessinée.
Oui, oui, oui.
Ben, soudainement, il y a une autre BD qui apparaît là-dessus. C'est donc Schmitty, le fameux microcéphale qui est apparu donc en 1932 dans le film Freak, film culte, et Maudit. Aussi, il faut dire difficile de le dire, de Todd Browning. Alors, un film qui a été interdit d'ailleurs pendant une trentaine d'années. Et c'est en découvrant cette œuvre-là dans un petit cinéma d'art et d'essai aux États-Unis que Bill Griffith, en 1933, donc, il y a eu une véritable révélation. Alors qu'étant étudiant en art, il a commencé à plancher sur une espèce de BD sur tête d'épingle qui l'avait particulièrement marqué, et il voulait écrire sur ce personnage qu'il trouvait particulièrement affectueux, attachant. Alors voilà, ça n'a pas fonctionné. Il a fait quelques petits temps d'essai, mais sans plus. Donc, plus récemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il est tombé avec Internet, bien sûr, qui a pris de l'ampleur. Ça a des mauvais côtés, mais ça a aussi des bons côtés à certains niveaux dans la recherche. Il est tombé sur une foule d'informations. Il a fait un travail de reportage. Il est allé vers des personnes qui l'ont fait tout pour accueillir, dont, entre autres, en Ontario, au Canada. Il est passé à quelques reprises dans ce qu'on appelle des sideshows. Des sideshows, c'était donc un peu, en fait, c'est un peu un synonyme de freak show, mais c'est une espèce, si on peut dire, faire une traduction littérale en français, une espèce d'à côté de spectacle autre. Comme par exemple, j'ai dit dans ce livre-là, il est révélé qu'il a été présenté, il a été exhibé comme anomalie humaine aux côtés des Beach Boys alors qu'ils débutaient. Alors, ça, c'est un peu étonnant. Bref, il y a toute l'histoire aussi de ces sideshows-là et de leur disparition où, à un moment donné, on a empêché d'exhiber des êtres humains difformes ou handicapés, etc. Sauf qu'à travers ça, il y avait une espèce de culture populaire populaire dans des sens parfois inusités. À un moment donné, dans le livre, on voit un sénateur qui pointe au sideshow pour voir le fameux tête d'épingle et lui poser toutes sortes de questions pour finalement prendre une espèce de diatribe. Il est littéralement enragé après tête d'épingle et il va le traiter de tous les noms et lui dire que on devrait procéder à empêcher la naissance de tels êtres inutiles, grabataires et tout. Bref, on va aussi sur la fin de tête d'épingle. Les recherches de Bill Griffith l'amènent aussi à nous présenter sa vieillesse. Et ça, c'est quand même assez émouvant. Parce que tête d'épingle va se retrouver à un moment donné quand la personne qui l'exhibait, qui était aussi considéré comme son père, et l'avait introduit auprès de sa famille, de ses enfants, il vivait littéralement avec lui. Quand lui est mort, sa fille aînée, qui est devenue, d'une certaine façon, l'autorité morale pour chez lui, eh bien, elle l'a finalement placé dans un asile psychiatrique. Et, bon, bref, il va être retrouvé là et il va pouvoir finalement faire une vieillesse beaucoup plus proche de son côté frivole, son côté enfantin. Un très, très beau livre, un livre sur, justement, la question de la normalité, son acceptation sociale ou son utilisation mercantile. Tête d'épingle, un très, très, très beau livre, coloré, bien qu'il soit entièrement en noir et blanc, vraiment dans le style reportage qui pourrait évoquer d'une certaine façon le style de Joe Sacco, mais dans un registre tout autre, mais certainement pas moins politique. Donc, tête d'épingle chez l'éditeur Presque Lune par Bill Griffith. Un autre bouquin, celui-là est une façon étonnante d'entrevoir, de remettre en perspective une figure de la littérature mondiale, internationale, qui est Léon Tolstoï. Léon Tolstoï, ici, la bande dessinée, nous le propose tout à fait différemment. Pourquoi? Voyez déjà dès le titre. Léon et Sophia Tolstoï. C'est publié chez collaboratrices sont, pour le texte, la recherche Chantal Van Den Heuvel, H-E-U-V-E-L, et l'auteur de BD allemand Henrik Rehr, R-E-H-R. Et donc, on l'aura compris, ce livre met un peu en abîme un couple, le couple Tolstoï, c'est-à-dire Léon et Sofia. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent, derrière un grand homme d'époque, il y avait bien souvent aussi une femme tout aussi grande. Dans ce cas-ci, c'est tout à fait vrai. Sofia Tolstoï a réécrit complètement ses manuscrits. C'était elle qui les retranscrivait parce que c'est absolument illisible avec ses pattes de mouche. Par contre, Léon et Sofia Tolstoï, c'est aussi, peut-être, oui, une certaine forme d'histoire d'amour, mais ça a été aussi, sur la fin, une histoire de haine et une espèce de polarisation antagoniste qui est absolument fascinante. Tolstoï est allé jusqu'au bout de ses idées et tentait de les mettre en pratique, et sa conjointe tentait de sauver un peu les meubles pour sa famille et qui profite aussi d'une certaine façon de la popularité des écrits. À l'inverse, Tolstoï s'est mis à donner en usage gratuit au peuple ses écrits. Alors, c'est ça, il y avait comme une espèce de clash. Mais au-delà de tout ça, ce qui est absolument fascinant dans ce livre, qui est quand même assez terne au niveau des couleurs, on est dans des terres de sienne, dans des gris, dans des bleutés hivernales, dans un album qui est définitivement une biographie absolument fascinante, qui nous ramène dans certaines œuvres et aussi de ce qui se passait à ce moment-là dans la vie de Tolstoï, de ses enfants et tout. Alors voilà aussi le conflit qui existait vers la fin de la vie de Tolstoï, que ce soit Léon, que ce soit Sofia. Il faut ajouter que les enfants ont été mêlés à ça aussi, puisque Tolstoï comptait définitivement sortir de l'état de larve ses enfants, de personnes qui utilisent l'argent, qui vivent avec l'argent. Tout le rapport à l'argent, en tout cas, est très intéressant dans l'œuvre de Tolstoï, et tout aussi l'aspect de l'éducation. Toutes les expériences que Tolstoï a pu mener avec sa conjointe sur son domaine, mais dans plusieurs provinces, est extrêmement fascinant. J'ignorais aussi que pendant les grandes famines, Tolstoï a pris son bâton de pèlerin et a marché et est allé créer des cantines populaires à différents endroits en Russie. Et a tenté de lever des fonds. Par contre, il s'est vite aperçu que la question de l'argent pourrissait même la question d'une certaine façon de ce qu'on pourrait appeler la philanthropie. Alors, un livre extrêmement intéressant, toujours d'actualité, une pensée qui est assez fulgurante, merci. Donc, mise en abîme, bien sûr, dans la lunette d'un couple qui est Léon et Sofia Tolstoï, qui est le titre, publié chez Futuropolis par Henrik Rehr et Chantal Van Den Heuvel. Pour aller un peu dans le même sens de creuser l'œuvre de Tolstoï, j'ai abordé un livre qui s'appelle Étymologie, c'est au pluriel, pour survivre au chaos. Comment l'étymologie pourrait bien nous amener à survivre au chaos? Ce livre-là est publié chez l'éditeur Les Belles Lettres, et l'autrice est une Italienne du nom de Andrea Marcolongo. Bon, c'est un livre qui m'a donné des frissons d'énervement par moments, d'agacement, et par d'autres moments, des envolées qui m'ont porté finalement dans des réflexions fort intéressantes. Je m'explique. Andrea Marcolongo A est une helléniste diplômée de lettres classiques d'une université à Milan, est auteur de best-sellers tels « La langue géniale », tels « Neuf bonnes raisons d'aimer le grec », voilà, et certains autres livres. Et aujourd'hui, son éditeur prétend qu'elle est traduite dans 28 pays et compterait presque un demi-million de lecteurs, de lectrices. Alors, c'est quand même une sommité et en même temps, qui a une certaine popularité. Ici, ce qu'elle nous propose dans ce livre, Étymologie pour survivre au chaos, c'est de se réapproprier les mots pour pouvoir avoir une meilleure prise sur nos réflexions, sur la mise en abîme, en perspective, en fait, du monde dans lequel on vit. Et c'est assez intéressant parce qu'effectivement, les mots sont des pépites, sont des véritables gemmes avec lesquelles on parvient avec une certaine acuité à nommer le monde dans lequel on vit. On parvient aussi à refuser certains travers. Un exemple de ça, c'est le mot « migrant » qu'elle a choisi. Elle le travaille de façon assez intéressante, merci. Et elle, ce que je trouve dommage, par contre, c'est qu'elle prétend ne pas faire de politique, de faire strictement de l'étymologie, mais n'empêche, ce positionnement scientifique, tant qu'à moi, restreint un petit peu une portée encore plus grande et peut-être plus précise des prétentions de l'étymologie quant à nommer les choses, à nommer des relations entre les êtres humains. Ce livre-là se lit de la façon dont on le veut. On peut lire, par exemple, les mots sont regroupés en 9 grandes familles, évidemment, en provenance du grec, mais de bien d'autres langues, évidemment. Mais on va trouver des mots comme « chaos » et « confusion »,« labyrinthe »,« trahir »,« lire »,« ingénu », ou encore des mots comme « poésie »,« ciel »,« virgule »,« chouette »,« confiance », etc., etc. Donc, l'autrice nous propose de lire, d'appréhender son livre de la façon dont on le souhaite, c'est-à-dire d'un coureur à l'autre ou encore en glanant des mots qui nous inspirent ou dans lesquels on est déjà investi. Et c'est une très bonne idée. Définitivement, c'est un livre, en tout cas, qui, personnellement, je m'intéresse énormément à l'étymologie. J'ai quelques dictionnaires d'étymologie et dans le développement intellectuel qu'on peut avoir, dans l'arsenal intellectuel, si on peut dire, dans notre boîte à outils, l'étymologie est un élément qui n'est pas le moindre. Donc, un livre et une autrice sur lequel jeter un œil, assurément, Étymologie, donc au pluriel, pour survivre au chaos. C'est publié chez Belles Lettres et l'autrice, je répète son nom, Andrea Marcolongo. Pour s'achever, une dernière bande dessinée. Celle-ci me roulait dans la gorge, si on peut dire. Il s'agit de Wonder Woman, Terre 1, tome 2. C'est publié en français à partir de DC Comics par l'éditeur francophone Urban Comics. Et les auteurs sont Grant Morrison, un Américain, et un Québécois, surprise, qui fait le dessin. Ça arrive, il y a plusieurs productions de chez DC Comics qui sont le fait de dessinatrices, de dessinateurs québécois. Ici, il s'agit de Yannick Paquette. Le dessin ressemble à n'importe quelle production américaine. C'est toujours style comique, mais dans le style super-héros, bien entendu. Ici, on est avec une héroïne qui, si elle n'est pas blonde, elle est noire de jais comme un corbeau, qui n'empêche, a un profil, a un corps de DS. Ce livre-là, je l'ai trouvé un intérêt à cause de la question des Amazones, toute la légende des Amazones. C'est un livre, je dirais, définitivement américain sur le plan culturel, avec l'exagération, avec le clash toujours. Ici, on va trouver une espèce de blonde germanique qui porte un bandeau avec la swastika et qui va être l'ennemi juré de Wonder Woman, qui, elle, fait une croisade dans le monde des humains pour rétablir les droits pour des femmes. Alors, elle est définitivement présentée comme une super-héroïne féministe, et il y a quelque chose comme antagoniste ou paradoxal de voir cette espèce de grande américaine, en, si on peut dire, en costume de bain, attifée un peu comme une Miss Monde. Voilà, donc il y a quelque chose de très paradoxal. Mais en même temps, j'ai été surpris du repiquage de lutte féministe. Donc, un livre qui est troublant, mais qui en même temps va peut-être amener de façon, peut-être rejoindre un lectorat qui autrement n'entendrait même pas parler de ces questions-là. Donc, Wonder Woman, Terre 1, tome 2, de Grant Morrison et Yannick Paquette chez Urban Comics en collaboration avec DC.
Et on a une musique pour donner des échos, des notes à tous ces livres-là et à ces réflexions-là. Je suis allé chercher un disque il y a quelques années, un groupe français alternatif qui a rénové d'une certaine façon la musique alternative francophone en France. Il s'agit de Mickey 3D. C'est l'album Matador et l'extrait que Tamara et moi-même proposons est le sixième sens.
Merci beaucoup, Raymond. C'est toujours très intéressant comme recommandation, mais j'étais un peu surprise de la dernière recommandation. Il me semble que tu n'étais pas trop le fan des bandes dessinées par rapport sur les super-héros.
Ben, en fait, comme je disais, c'est que je suis parti à reculons, définitivement. Et le distributeur à Montréal de Urban Comics, évidemment, il insiste toujours sur des livres qui sont dessinés ou qui sont écrits par des Québécois ou des Québécoises. Alors, partant, il y avait une pénurie de livres, parce qu'on le sait, avec l'histoire du COVID, virus, machin, les livres sont pris souvent dans le port de Montréal et il y a des délais incroyables. Mm-hmm. Alors,
c'est intéressant de s'aventurer là-dedans juste pour voir si les choses évoluent aussi, quoi.
Oui, effectivement, c'est un peu l'approche que j'ai eue. J'avoue que je le fais rarement parce que je trouve suffisamment d'autres choses généralement plus stimulantes comme les autres livres dont on a parlé. Mais j'avoue que j'ai été déstabilisé dans un peu l'idée préconçue que j'avais du truc. Bien que à certains autres égards, comme je l'ai dit, il ne faut pas oublier que c'est quand même une femme structurale qui est tout à fait dans la lignée attendue de ce genre de super-héroïne-là, bien peignée et tout, qui fait un peu chier d'une certaine façon. Mm-hmm. C'est comme il est vraiment trop parfaite.
Bon, voilà. Ben merci Raymond. Et on se reparle la semaine prochaine.
Ben, toujours au plaisir et viva CKUT 90.3 FM.
On dirait que la planète sous l'envie n'est pas nette. On le sent tout le temps, on le sent tout le temps. On dirait qu'il y a des gens qui passent par les fenêtres. On l'entend tout le temps, on l'entend tout le temps. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est du pipeau. Pareil même qu'il y a des gens qui rêvent du futur. Moi je ne vois l'avenir que dans mes souvenirs. Moi je ne vois l'avenir que dans mes souvenirs. Moi je ne vois l'avenir que dans mes souvenirs. Moi je ne vois l'avenir que dans mes souvenirs. Je vois la guerre dans le désert. Je vois des étoiles qui filent à l'envers. De la violence dans le silence, et les courageux perdent connaissance. Il y a des jours sur le parcours où les amoureux ne voient plus l'amour. De la distance dans nos vacances, et les paresseux sont tous en avance. Paraît qu'il y a des dandys qui nous veulent du bien. Tout le monde le dit, tout le monde le dit. Paraît qu'il y a des gentils qui ont du sang sur les mains. Tout le monde le sait, tout le monde le sait. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est du pipeau. Paraît qu'il y a des salauds qui se prennent pour les héros. Moi je crois que l'avenir nous réserve le pire. Moi je crois que l'avenir nous réserve le pire. Moi je crois que l'avenir nous réserve le pire. Moi je crois que l'avenir nous réserve le pire. Je vois la guerre dans le désert. Je vois des étoiles qui filent à l'envers. De la violence dans le silence, et les courageux perdent connaissance. Il y a des jours sur le parcours où les amoureux ne voient plus l'amour. De la distance dans nos vacances, et les paresseux sont tous en avance. Je vois des étoiles qui filent à l'envers. De la violence dans le silence, et les courageux perdent connaissance. Il y a des jours sur le parcours où les amoureux ne voient plus l'amour. De la distance dans nos vacances, et les paresseux sont tous en avance. Il y a des sirènes dans nos réveils qui nous rappellent qu'on est des appareils. Dans le système plein de ficelles, on se ramasse tous un jour à l'appel. Il y a de la place dans les espaces, des calendriers par-dessus les traces, et de la place dans nos godasses. Il n'y a pas que les singes qui font la grimace. Moi je ne vois l'avenir que dans mes souvenirs. Je crois que l'avenir nous réserve le pire. Moi je ne vois l'avenir que dans mes souvenirs. Je crois que l'avenir nous réserve le pire.
On parle de productivité au travail et dans la vie. Je suis Nathalie Marceau. Bienvenue à ce hors-série de Très Pharmacien. Bonjour, chers auditeurs. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour un épisode de Très Pharmacien. Aujourd'hui, on va faire un petit hors-série. J'aime bien les appeler les hors-cliniques. Là. C'est des balados qui nous font réfléchir et nous donnent une perspective différente sur des situations qu'on peut vivre au travail ou dans la vie, toujours en gardant notre petit côté pharmacien. Comme nous sommes au début de l'automne et que, ben, vous le savez, là, les activités professionnelles reprennent à grand V, les enfants sont de retour sur les bancs d'école, on a pensé à vous offrir un petit balado sur des notions de productivité, que ce soit au travail ou dans la vie. Pour nous parler de ce domaine qui le passionne, je reçois Mathieu Desgroseilliers, qui est pharmacien en soins critiques, aux soins intensifs et à l'urgence, au 6 de la Montérégie Est. Mathieu est également animateur du balado de soins critiques francophone. Bonjour Mathieu.
Hey, bonjour Nathalie, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être là.
Mathieu, écoute, l'objectif de ce balado aujourd'hui, c'est de donner des outils pour que nos auditeurs puissent les mettre en application dans leur quotidien. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet avec des exemples pratico-pratiques, c'est pour ça qu'on mette la table en expliquant c'est quoi la productivité, là. Puis j'espère que tu ne vas pas me dire que c'est presser le citron plus fort que possible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus.
non, je ne te dirai pas ça. On ne fera pas du jus de citron ni de n'importe quel agrume de ton choix. Mais ça, c'est drôle que tu dises ça parce que dans les faits, beaucoup de gens pensent que la productivité, c'est littéralement ça. Faire plus avec moins, puis toujours go, go, go. Mais ça, c'est un peu une vision, je dirais, historique, si on veut. Parce que dans le fond, la productivité, là, quand on regarde les définitions, cette définition de toujours faire plus avec moins, ça vient vraiment de l'ère industrielle. Tu sais, dans le temps, là, dans les années 1800, début des années 1900, là, avec les usines, là, où ce qu'il y a, tu sais, dans le fond, une usine était productive, plus elle sortait d'unités. Et moins de temps ça prenait pour en sortir, plus elle était productive. Mais nos jours, je te dirais, c'est plus vraiment une définition qui est applicable. Parce que les gens qui travaillent un petit peu dans ce qu'on appelle la sphère du savoir, des connaissances, un peu comme nous autres, là, les pharmaciens, on ne produit pas nécessairement des autos. Tu sais, on ne produit pas des unités. Je pense que la productivité, il faudrait qu'on arrête, en tout cas pour le domaine du savoir puis des connaissances, qu'on arrête de parler un petit peu de presser le jus et de faire plus avec moins, mais parler plus, pas de nombre, mais plus de valeur sur ce qu'on produit. Qu'est-ce qui est plus productif? Utiliser les connaissances du pharmacien pour aider à sauver une vie, aider à diminuer les hospites, ou faire un nombre X d'unités quelconque, là, on parlait de BCM, ça pourrait être n'importe quelle autre activité.
Fait que dans le fond, tu me dis là, qu'être productif là, dans notre contexte, c'est la productivité d'un expert. Fait que comment on définit ça, un expert, dans ce contexte-là?
On parle beaucoup d'experts. Il y en a qui vont se mettre, on est des experts de la productivité, mais c'est quoi un expert? En fait, un expert de productivité, moi, je trouve que ça n'existe pas. À vrai dire, il n'y a pas juste une façon de faire. Puis ça, c'est un piège, j'allais dire un piège clinique, mais un piège hors clinique dans lequel on peut tomber facilement. Moi, j'ai été le premier à tomber là-dedans. De dire, ah, lui, il a l'air de parler beaucoup, il a l'air connu, on va le suivre, puis je vais faire exactement ce qu'il fait. Mais dans les faits, ce qui marche pour lui ne va pas nécessairement marcher pour moi. Puis il y a peut-être juste une portion de ce qu'il dit qui est applicable à ma situation, à moi. Fait que la productivité, c'est un peu ça. Il faut que tu regardes un peu ce que les autres font. Il n'y a pas de solution miracle, même s'il y en a qui vont dire, ah oui, ma solution est la solution. Puis c'est de faire, dans le fond, le tour un peu, puis de regarder, puis de prendre ce qu'on a de besoin, puis l'appliquer à nous-mêmes pour arriver à notre propre définition, mais à notre propre façon de faire aussi. Okay? Parce que si tu te fies juste à ce que l'expert, entre guillemets, dit, puis tu te fies à sa solution miracle, qui n'est pas vraiment applicable pour toi, à long terme, là, tu vas faire « mais ça ne marche pas, mais lui, ça marche, pourquoi moi, ça ne marche pas? » Ça peut t'amener de la culpabilité, puis tu peux te remettre en doute, puis tu vas le faire de plus en plus, puis là, ça arrête de marcher, pourquoi ça ne marche pas? Fait que, tu sais, je pense que la productivité, il faut plus le voir plus comme un voyage et non comme une destination.
Fait que donc, on voit la productivité plus en termes d'intention qu'en termes de nombre d'unités. Tu sais, en termes de valeur, dans le fond. C'est ce que je comprends de ce que tu me dis.
Oui, parce qu'il y a un expert, entre guillemets, qui est reconnu, il s'appelle Peter Drucker. Il disait, il n'y a rien de plus inutile que de faire quelque chose d'efficace, mais qui ne devrait pas être fait du tout. Fait que, tu sais, oui, il y a produire, mais c'est plus en termes d'intentionnalité que d'un nombre d'unités. C'est plus un terme de valeur, tu sais. Puis ça, c'est propre à chacun. Tu sais, dans le fond, la productivité, c'est faire ce qui est important pour soi, selon nos objectifs à nous, nos valeurs, nos intentions. Il faut être pleinement conscient de ce qu'on fait, de notre temps, de notre attention, de l'utilisation qu'on en fait. Puis, il faut essayer de faire des activités qui sont à haute valeur ajoutée, que ce soit dans la vie, que ce soit professionnel. Par rapport à nos objectifs, je te donne un exemple là, personnel, OK? Moi, j'ai des jeunes enfants, j'aime ça passer du temps avec. Fait qu'une activité à haute valeur ajoutée, ben, c'est de passer du temps avec mon gars. C'est de jouer au Lego avec lui. T'sais, c'est pas être sur mon téléphone à regarder les réseaux sociaux, à faire ci, à faire ça, à répondre à des courriels. Parce que mon objectif, ma valeur, j'ai mis en priorité d'avoir une bonne relation avec mon gars. Fin de la parenthèse de la psychologie de Mathieu. Mais c'est pour démontrer vraiment qu'il faut cibler nos objectifs. Puis c'est avec ça qu'on va définir notre productivité.
Bien, c'est bien que tu me parles d'objectifs parce que je voulais justement te demander comment on fait pour bien établir ces objectifs-là. Toi, tu me dis, bon, j'ai établi l'objectif que je veux passer du temps avec mes enfants, j'en suis conscient. Mais comment on arrive à établir ces objectifs-là, que ce soit au travail ou dans la vie?
Des trucs, il y en a des tonnes, puis je pense j'aurais dû dire ça d'emblée, là, d'entrée de jeu. Je suis pas un expert. Je vais dire ce que moi, j'ai lu, ce que j'ai vu. J'invite les auditeurs à prendre, à en prendre, puis à en laisser, puis à appliquer ce qui est bon pour eux. Si tu veux, dans le fond, définir tes objectifs, je pense, un peu comme on parlait, il faut que tu définisses ton pourquoi tu veux faire ça. Tu sais, dans le fond, c'est définir les raisons. Parce que si tu le fais pas, tu vas te retrouver à essayer de toujours faire plein d'affaires, mais qui ne t'avanceront pas. Tu ne seras pas nécessairement satisfait, puis tu ne sauras pas pourquoi. Puis, à moyen terme, ça peut même t'amener à un épuisement à long terme parce que tu vas te sentir désengagé, tu vas être moins satisfait. Ça va même diminuer ta productivité, ça pourrait même t'amener en burn-out. Fait que définir son pourquoi, c'est super important. Parce que sinon, écoute, beaucoup de temps et d'énergie, tu vas te perdre là, tout à fait inutilement.
Hey, j'aime ça ton affaire de pourquoi. Là. Les Anglais, ils disent avoir un big enough why, là, un pourquoi assez gros. Là. Dis-moi si mon exemple fait du sens. Là, des fois, on pourrait dire, moi, je voudrais courir 3 fois par semaine. Fait que là, tu arrives au moment que tu veux courir, tu dis, bon, là, faut que j'aille courir. Ça ne me tente pas. Mais si j'ai bien défini mon pourquoi, si je dis, je vais aller courir parce que j'aime ça être dehors, parce que quand je vais revenir, ça va me faire du bien, je vais sentir que mon corps est mieux, parce que je vais être de meilleure humeur, parce que je vais avoir plus d'énergie, peut-être parce que je vais perdre 5 livres. C'est toutes des raisons qui font que je vais sortir dehors et que je vais quadriller. Mais si je reste, il faut que j'aille courir, je le ferai pas.
Exactement.
Est-ce que je comprends bien?
Oui, vraiment. C'est drôle que tu parles de courir parce que moi aussi, je me suis mis à la course. Puis, tu sais, moi, ma raison a été, écoute, j'ai tourné la trentaine, puis j'avais lu à quelque part aucune idée si c'est vrai, là, OK? J'avais lu « Ta santé à 30 ans va dicter les 30 à 60 prochaines années de ta vie. » Fait que je me suis dit, hey, c'est pas vrai que moi, à 60 ans, je vais passer mon temps in and out de l'hôpital parce que je vais être insuffisant cardiaque, puis ci, puis ça. Et j'ai fait « Non, c'est pas vrai. » Je me suis pris en main. Puis ma raison, c'était comme « Moi, je veux pas souffrir plus tard. » Je vais être plus en forme. Fait que je me suis mis à courir. Fait que ça fait que le matin, quand je me lève pour aller courir, ben, j'ai ma raison. Tu sais, j'y vais pas parce que, mais c'est sur le calendrier, il faut que j'aille courir, ça me tente pas. Ça me tente pas des fois. Mais après ça, je me rappelle pourquoi je veux faire ça. Puis bon, pour moi, c'était des raisons qui étaient suffisantes puis qui faisaient que j'y allais, tu sais. Fait que si t'as pas pris le temps de définir pourquoi tu veux faire quelque chose, ça va durer, mais quelques jours, quelques semaines, puis avec le temps, ça va partir. Fait que c'est super important.
Fait que là, j'ai défini mes objectifs, là, j'ai trouvé mon pourquoi, mais là, tu viens de parler du calendrier, là, il faut le planifier?
Je te dirais que oui, parce que Dwight Eisenhower, tu sais, le président américain, là, il a dit quelque chose qui, écoute, encore aujourd'hui, là, je l'entends à chaque fois, les plans valent rien, la planification et tout. Tout passe par la planification. Parce que ça te permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe, OK? Fait que si tu as des imprévus, ben tu peux ajuster. Ça te permet vraiment d'avoir une vision globale. Puis pour les amateurs de hockey, je vous ramène à Wayne Gretzky, OK? Tu sais, un des plus grands joueurs de hockey de tous les temps, qui avait une position, il se plaçait derrière le but, qui est, dans les faits, est une zone morte. Parce que tu peux pas vraiment scorer, tu es derrière le but, il y a tout le monde. Mais Wayne Gretzky se plaçait là, pourquoi? Parce que ça lui donnait une vision globale du jeu. Il voyait tout ce qui se passait. Là, tu vas me dire que mon analogie est poche, là, mais cette vision globale-là te permet de voir les opportunités qui s'en viennent, les opportunités qui vont planter, mais ça te permet d'ajuster ton tir en cours de route là, si jamais il se passe quelque chose.
Je comprends que Wayne Gretzky se mettait derrière le filet, puis il voyait comment le match se déroulait, puis il savait où se placer, donc il atteignait ses objectifs comme ça. Mais un match de hockey, c'est pas tellement long, là. On planifie sur combien de temps, Mathieu?
Bien, écoute, je te dirais sur toute ta vie. Là, je ne veux pas faire peur à personne. La raison pourquoi je te dis ça, c'est que dans le fond, il y a plusieurs niveaux de vision et de planification. Il faut que tu aies une idée aussi, un peu comme un plan maître dans ta vie professionnelle puis dans ta vie personnelle. Tu sais, dans 5 ans, je me vois où? Dans 10 ans, je me vois où? Parce que ça donne la direction dans laquelle tu vas aller. Ça, est-ce que ça requiert de la grosse planification? Pas nécessairement, mais ça requiert de l'introspection. Fait qu'une fois que tu sais où tu t'en vas, là, après ça, ben là, tu peux rapprocher l'horizon puis te dire, bon, pour la prochaine année, c'est quoi mes objectifs? Où est-ce que je me vois dans un an? Okay. Ça, c'est quand même plus facile à atteindre. T'sais, on prend toutes des résolutions le 1er janvier de l'année. C'est là que ce qu'on appelle l'année 12 semaines, si tu veux, le 12-week year, ça vient, dans le fond, des trimestres. Fait que là, tu te dis, je vais décortiquer ce que j'ai besoin de faire, mes étapes. Qu'est-ce que j'ai besoin comme outil pour réaliser mes objectifs? OK, il faut que tu gardes ça simple, naturellement. Puis là, tu vas te donner des objectifs à plus court terme. Mettons que c'est un gros projet dans ton année, bien, tu vas diviser ça en différents trimestres. Puis là, tu te dis, bon, bien, dans le premier trimestre, c'est ça que je veux faire. Fait que là, tu as une bonne idée de la direction du trimestre. Puis là, à ce moment-là, ça te permet de te faire ta planification plus à la semaine. Puis là, à la semaine, tu lui donnes un thème. Tu lui donnes des objectifs. Tu dis, moi, cette semaine, il faut que je fasse X projet. Puis là, à ce moment-là, c'est là que tu regardes ton calendrier de la journée, puis tu donnes des objectifs à ta journée ou des choses à faire.
OK, Mathieu, je comprends. Là, je veux que tu me donnes du concret. Là. Mettons que j'ai des auditeurs qui nous écoutent et qui disent là, mais moi, là, mon but, c'est de devenir un pharmacien spécialiste reconnu en clinique. Mon objectif dans la prochaine année, c'est d'aller chercher mon board of pharmacothérapie américain. Comment je mets ça en place?
Dans le fond, c'est simple. Tu viens de trouver ton pourquoi. Tu sais pourquoi tu le fais, tu ne perdras pas ton temps à dire à tourner en rond et étudier puis ça ne te tentera pas. Une fois que tu as fait ça, c'est quand la date d'examen? Okay? Parce qu'il faut que tu regardes c'est quoi ton timeline. Fait que, mettons, tu dis, je veux faire la prochaine période d'examen. Tu as 5 mois pour étudier. Fait que là, tu regardes, puis là, tu prends ton cours préparatoire, tu regardes les modules, puis là, tu dis, bon, ben semaine 1, je vais faire tout ce qui est rapport à la gestion. 1, j'aime pas ça. 2, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Les régulations américaines, je vais faire ça semaine 2. Semaine 3, je vais faire un autre sujet, tu sais. Et ainsi de suite. Fait que dans le fond, tu donnes à chaque semaine, tu donnes un objectif. Semaine 4, je fais un wrap-up. J'essaie de faire une semaine de révision pour faire du active recalling qui va te permettre de cimenter ce que tu as appris. Puis tu fais ça, dans le fond, pour toute la durée que tu as de préparation. Puis tu gardes un peu de marge de manœuvre avant l'examen, une semaine ou deux de révision totale ou globale. Fait que s'il arrive quelque chose, bien là, tu sais que tu es capable de réajuster ton tir. Puis tu t'en vas faire l'examen, puis tu le réussis. Puis après ça, super important, fêter son succès. Parce que ça ne donne rien de tout faire ça, puis on passe à d'autres choses. Il faut les victoires, il faut les souligner. Ça, c'est important.
Moi, je trouve que c'est des beaux principes. Là. Tu m'expliques ça, c'est le fun. Là. Mais pratico-pratique, là, c'est quoi? Là? Tu me dis-tu de le mettre dans mon agenda, cette plage horaire-là? Est-ce que tu me dis, bien, donc, le mercredi de 8 à 9, je devrais la céduler? Ou bien, je reste un peu dans mon cerveau?
Je te dirais que ça peut fonctionner, mais à moyen terme, c'est pas super parce que, dans le fond, on a une bonne cognitive, là, puis ça va prendre de l'espace. Puis t'as pas cette énergie mentale-là à perdre à essayer de garder en tête ta planification. Dans le fond, tu prévois des blocs dans ta semaine d'études. Là, c'est pas juste de dire, hey, je vais étudier le mercredi matin. C'est de dire, mercredi matin, je vais étudier telle portion du module. Et là, si j'entends les auditeurs réfléchir, puis ils se disent « Ouais, mais là, écoute, si je mets trop de blocs, là, ça, on se pourra plus. » Puis là, il faut faire attention là, à ce qu'on appelle l'hyper-scheduling. Trop planifier, c'est comme pas assez. Okay? Parce que si tu planifies à la minute près, la vie va faire en sorte que c'est sûr que ça va foirer. Okay? Fait que tu prévois des blocs d'études. Fait que tu sais, c'est un peu ça, là, pratico-pratique, faire ça.
Maintenant, Mathieu, j'aimerais t'amener vers le mystérieux principe de Pareto. C'est quoi le principe de Pareto?
Tout le monde la connaît, le principe de Pareto, sans nécessairement savoir le nom. Mais tu sais, c'est la fameuse règle du 80-20. C'est un phénomène empirique qui a été constaté là, que 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. La grande majorité de tes résultats vient d'un faible pourcentage de tes efforts. Ça ne donne à rien de passer du temps sur des trucs qui vont te demander énormément d'efforts, mais qui rapporteront peu. Hein. C'est ça, on le sait tous. Tu sais, quand on a étudié, je te ramène à l'université où ce que tu sais, là, des fois, tu te disais, je vais étudier une heure ou deux de plus, mais tu connais déjà ta matière pour essayer d'aller chercher le pourcentage, 0.1% de connaissances possibles que tu pourrais aller chercher, alors que finalement, ça serait plus rentable juste de te coucher puis d'être en forme pour ton examen. T'sais. Bon, ça, on l'a tous vécu comme étudiant, mais dans notre vie aussi, hein, c'est un peu comme ça. Fait que c'est super important d'identifier qu'il nous gagne beaucoup d'efforts. Ce qui va se passer, c'est que tu vas passer vraiment beaucoup trop de temps sur des trucs que tu ne devrais pas. Ça va te gruger de l'énergie. Fait que cette énergie-là, tu ne l'as pas pour mettre ailleurs. Tu sais, quand tu colles sur un détail, tu dis « je veux vraiment aller au fond des choses ». Des fois, c'est bien, mais des fois, il faut que tu gardes en tête qu'aller au fond des choses, ça ne t'amènera pas nécessairement un gain supplémentaire ou il va tellement être minime que tu vas perdre du temps. Je ne veux pas dire inutilement parce que plus tu as de connaissances, c'est jamais perdu, là, mais c'est que peut-être que tu vas perdre l'énergie que tu aurais pu mettre ailleurs.
Mathieu, j'ai un autre exemple à te proposer. Puis dis-moi si j'ai bien compris un peu le principe de Pareto. Je pense à quelqu'un qui aurait un gros projet à accomplir, puis qui aurait 8 heures pour accomplir son projet. Puis plutôt que de plancher sur le projet, décide de répondre à ses courriels. C'est souvent un exemple qui revient, là, le temps qu'on perd dans la réponse au courriel versus le temps qu'on pourrait prendre pour faire avancer un projet. Est-ce que ça pourrait s'attacher au principe de Pareto ou je suis dans l'erreur?
Je pense que oui, parce que tu sais, dans le fond, c'est de l'énergie que tu vas mettre qui ne t'apportera pas nécessairement un résultat sur ton projet. C'est sûr que ça aussi, je pense, englobe une autre portion de discussion là, qui sont le focus, le travail plus en profondeur, si on veut. Mais oui, ça peut s'appliquer au principe de Pareto, parce que dans le fond, si tu mets des efforts sur tes courriels, qui sont peut-être reliés au projet, mais qui en soi ne feront pas nécessairement l'avancer, tu vas avoir du résultat qui va ressortir de ton courriel, là, si c'est relié à ton projet, là. Mais est-ce que c'est ce qui va le faire le plus avancer? Pas nécessairement. Il faut faire attention. Des fois, tu es bloqué dans le projet puis tu as besoin d'un réalignement ou d'une discussion avec quelqu'un. Puis bon, ça passe par le courriel. Bon, c'est correct. Là, oui, tu vas avoir un gain qui va être plus important. Mais règle générale, répondre à des courriels alors que tu te dis, ben là, il faut que je travaille sur tel projet, ben c'est de l'effort un peu gaspillé parce qu'après ça, l'énergie que tu as dépensée à regarder tes courriels, tu n'as moins pour faire ton projet. Mais là, c'est sûr que j'entends le monde, hey, l'énergie, là, wow, 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 Mathieu, là, on s'entend, là, c'est répondre des courriels, je viens pas de courir un marathon, je suis encore pimpé. Je suis d'accord, là, physiquement, t'as encore l'énergie, mais c'est l'énergie mentale là, que je parle plus. Là. C'est cette bande cognitive là, qu'on a, cette bande passante cognitive, qui est limitée, hein, et pas illimitée là, comme certains serveurs Internet. Là.
Je comprends bien. Mais Mathieu, je te propose qu'on aborde davantage sur le sujet là, du travail en profondeur dans le prochain balado. Qu'est-ce que tu en penses?
Je suis tout à fait d'accord. Puis j'invite les auditeurs, là, juste avant qu'on finisse ce balado-là, à garder en tête hein, que la montagne se gravit un pas à la fois.
Merci, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres pour cette incursion dans le monde de la productivité. J'espère que la passion que Mathieu et moi partageons sur le sujet a été communicative. Et donc, je vous donne rendez-vous pour un deuxième épisode sur le sujet où on va aborder des concepts comme « mange ta grenouille »,« fais face à ton dragon ». Et Mathieu, as-tu d'autres idées de concepts qu'on va rencontrer au prochain épisode?
Si tu veux, on peut continuer dans la mythologie grecque là, avec l'hydre aux multiples faces et toute autre mythologie. Là, on va s'amuser.
Donc, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour conclure cette discussion fort intéressante sur la productivité. À bientôt!